Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La CFDT demande toujours le retrait de l'âge pivot et propose une conférence de financement du système de retraite. Laurent Berger, vous l'entendrez, s'est exprimé hier soir sur France 2 alors que les concertations doivent reprendre demain.
Et puis autre réforme menée par le gouvernement, celle du bac. Les premières épreuves communes de contrôle continu vont commencer ce mois-ci. Les filières générales devront passer les langues vivantes et l'histoire-géographie.
Une prière doit avoir lieu ce matin à Téhéran en hommage au général iranien Soleimani, tué dans un raid américain en Irak vendredi. Hier, le Parlement irakien a voté l'expulsion des troupes américaines. 5200 militaires sont actuellement déployés dans ce pays.
Et puis c'est un rendez-vous crucial pour le mouvement MeToo. Le procès de l'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein s'ouvre aujourd'hui. Depuis 2 ans, de nombreux témoignages de viols et d'agressions sexuelles se sont accumulés contre lui.
Et la question du jour, Guillaume ?
Eh bien, on va évoquer l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. Nous serons en compagnie de Bruno Tertreil, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
À la veille de la reprise de la concertation sur la réforme des retraites, l'enjeu est maintenant de trouver un compromis, estime Richard Ferrand. Le président de l'Assemblée nationale a proposé une décote temporaire sur l'âge pivot, point de blocage. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a de nouveau demandé hier soir que cet âge pivot fixé à 64 ans soit retiré du projet de loi. En dessous, il ne sera pas possible de partir avec une retraite à taux plein. Un moyen, selon le gouvernement, de garantir l'équilibre financier du système, mais le numéro 1 de la CFDT appelle lui à une conférence de financement. Il l'a dit hier soir sur le plateau de France 2.
Tous discutent, mais pas dans ce projet de loi. Ce que je veux dire par là, c'est ce dont il est question. Si le gouvernement met cet âge pivot dans ce projet, ça veut dire qu'il confond des choux et des carottes. Tout simplement, il y a un système universel qui va être créé, la CFDT est pour, vous l'avez dit, et de l'autre côté, on veut faire une réforme financière budgétaire.
Mais
avec
non, pardon,
cet âge pivot.
On fait quoi?
Eh bien, tout simplement.
Prochain. Qu'est-ce que vous proposez?
Ce qu'on fait, c'est qu'on continue à travailler sur le contenu du système universel des retraites dans les concertations qui s'ouvrent pour améliorer les dispositifs de pénibilité, pour améliorer les dispositifs de pré-retraite progressive, de minimum contributif et sur la question financière. Parce que la CFDT ne se désintéresse pas de l'équilibre du régime des retraites, eh bien, on convoque une conférence de financement des retraites qui, jusqu'à fin juillet, fin septembre, travaille à des propositions pour l'équilibre du régime à moyen et long terme.
Laurent Berger de la CFDT qui décidera aujourd'hui si elle se mobilise ou non samedi comme l'intersyndicale, la CGT en tête. Il n'est donc pas question de relâcher la pression exercée sur le gouvernement depuis le 5 décembre dernier. Et alors que celui-ci présentera le projet de loi en Conseil des ministres le 24 janvier prochain, la CGT en particulier est très mobilisée. Son but, obtenir le retrait de cette réforme, Adèle Grelier.
C'est la mère de toutes les batailles. La réforme des retraites concerne tous les Français et sur le sujet, les syndicats se doivent d'incarner la défense des droits sociaux. Pour la CGT, c'est le retour aux fondamentaux, âgés, grève et manifestations. Cette bonne vieille recette a fait ses preuves. Une seule inconnue, la mobilisation. Elle doit être massive pour faire reculer le gouvernement. Alors la Confédération a battu le rappel dans tous ses bastions. Bien sûr, la SNCF et la RATP viennent de se rajouter les dockers pour l'opération Port Mort, les raffineries et dépôts de carburant ou encore les électriciens et gaziers. Le secrétaire général de la Fédération Mine-Énergie promet de nouvelles actions et blocages. En tout cas, pas d'essoufflement en vue, assure Gilles Gouron.
Nous on travaille à étendre et intensifier la grève, à étendre et intensifier les blocages. Donc on va appeler jeudi, on va appeler vendredi, on va appeler à des grandes manifestations samedi aussi. Non, la période n'est pas à la négociation, la période est à la lutte et à l'action. Pour l'instant, on est organisé, on a l'intention de tenir. Bon, il y a eu la petite trêve des confidères, vous l'avez bien vu, mais pour la rentrée, c'est fort. Ça remonte assez fort.
Force ouvrière, la CFE-CGC, la FSU, l'UNEF, l'UNL et Solidaires appellent également à organiser des assemblées générales dans les entreprises, les lycées et les universités dès ce lundi. L'intersyndicale compte sur une démonstration de force dans les rues le 9 et 11 janvier prochains.
Annabelle Grelier. Les avocats, déjà mobilisés le 5 décembre, recommencent à partir d'aujourd'hui pour défendre leur régime autonome. À la SNCF, le trafic sera encore perturbé, mais moins que ces dernières semaines, avec 8 TGV sur 10 qui circuleront en moyenne et 6 TER sur 10. En revanche, pas d'amélioration à la RATP. Seules les lignes de métro parisiennes 1 et 14 fonctionnent normalement. Également mobilisés contre cette réforme, les enseignants, les cours reprennent aujourd'hui. Après 2 semaines de vacances qui n'ont pas été de tout repos pour certains. Les lycéens en classe de première ont révisé avant les nouvelles épreuves anticipées du bac. Elles commenceront le 20 janvier à Kim Kasmi.
Le contrôle continu, c'est l'une des principales innovations de ce nouveau bac voulu par Jean-Michel Blanquer, qui comptera pour 30% de la note finale. Pour les premières sessions de janvier, les élèves de filière générale devront donc passer les langues vivantes et l'histoire-géographie et les mathématiques pour les séries technologiques. Les épreuves qu'ils composeront dans leur propre établissement, avec des sujets qu'auront choisis au préalable, leurs enseignants, en accord avec le proviseur qui tranchera. Ces sujets seront piochés dans une banque de données dédiée uniquement accessible par les enseignants. Une plateforme ouverte plus tard que prévu, début décembre, ce qui a perturbé les élèves ainsi que leurs professeurs pour préparer les examens. Tout comme les nouveaux programmes, très chargés et parfois difficiles, en particulier en spécialité mathématique. Ce que reconnaît le ministère de l'Éducation, qui prévoit quelques ajustements. Mais il ne cache pas sa volonté d'élever le niveau général du baccalauréat pour mieux répondre aux attentes du monde universitaire. D'où l'instauration de critères de sélection sur la plateforme d'inscription Parcoursup. Ce sont les fameux attendus. Quant aux corrections des copies qui seront numérisées et scannées, elles se feront par les enseignants d'un même établissement, mais qui ne devront pas avoir leurs propres élèves pour plus d'équité.
Les précisions d'Hakim Kasmi.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Donald Trump menace l'Iran de représailles majeures.
Le président des États-Unis a réagi hier après un vote du Parlement irakien qui réclame l'expulsion des troupes américaines du pays. L'Irak, menacé de sanctions par Washington. Les relations se dégradent un peu plus chaque jour depuis la mort dans un raid américain vendredi à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani. Donald Trump pourrait même frapper des sites culturels iraniens. Hier soir, comme la veille, des roquettes se sont abattues près de l'ambassade américaine dans la zone verte de Bagdad. Les 5200 soldats américains présents en Irak pourraient donc se retirer. Avec quelles conséquences? La réponse de Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'Irak.
Les conséquences sont d'abord l'humiliation des États-Unis dans un pays qu'ils avaient militairement occupé en 2003 et dont ils voulaient faire le phare de la démocratie au Moyen-Orient, dont ils se trouvent aujourd'hui expulsés par l'une des plus importantes communautés. Et l'avenir pour l'Irak, hélas, me semble très sombre parce que la mainmise de l'Iran sur une communauté chiite qui va retrouver momentanément son unité ne sera pas à même de résoudre les problèmes nés de la contestation qui va réapparaître très vite. Les chiites ont été à l'avant-garde à travers leurs milices de la reprise des territoires conquis par Daesh en collaboration avec la coalition menée par les États-Unis. Donc c'est un double échec pour les Américains dans la mesure où ils s'aliènent l'une des communautés qui avait permis de vaincre militairement le premier ennemi des pays occidentaux, à savoir Daesh. L'État islamique avait adopté la résilience et une totale clandestinité, attendant son heure qu'elle pensait venir peut-être moins rapidement. Mais l'effondrement du système en place a fait que dès maintenant, il y a un boulevard à nouveau qui s'ouvre devant la mouvance salafiste et qu'il n'y aura plus une unité militaire susceptible de la vaincre comme ça a été le cas.
Pierre-Jean Luizard, des propos recueillis par Nabila Hamel. Hier, l'Iran a annoncé qu'il ne s'en sentait désormais plus tenu par aucune limite sur le nombre de ses centrifugeuses. L'Iran qui a présenté la cinquième et dernière phase de son plan de réduction de ses engagements en matière nucléaire. L'autre actualité qui agite les États-Unis, c'est le procès de l'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein. Il y a 2 ans, des témoignages de femmes se sont multipliés, l'accusant de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol, ce qui a déclenché dans le monde entier un mouvement que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de MeToo. Son procès s'ouvre donc aujourd'hui à New York devant un tribunal de Manhattan. Sur les 80 femmes environ qui ont parlé, 2 sont concernées par ces poursuites pénales. Explication de Grégory Phillips.
Harvey Weinstein a promis qu'il serait présent à l'ouverture de son procès, même si on ne sait pas s'il acceptera de témoigner. Le juge Burke va examiner deux plaintes. La première, celle de l'ex-assistante de Weinstein, Mimi Hallett, qui affirme avoir été agressée sexuellement dans son appartement new-yorkais à l'été 2006. La seconde victime présumée restera anonyme. Elle explique que l'ancien nabab d'Hollywood l'a violée en mars 2013 dans une chambre d'hôtel, également à New York. Enfin, l'actrice Annabella Sciorra, connue pour son rôle dans la série Les Sopranos, sera entendue comme témoin, même si les faits dans son dossier sont prescrits. Au total, 6 chefs d'accusation pèsent sur Weinstein, qui risque la prison à perpétuité si son caractère de prédateur sexuel est confirmé. Le procès le plus important de l'ère MeToo se jouera aussi à l'extérieur du tribunal, où d'autres femmes, qui elles aussi ont brisé le silence, et notamment les actrices Rosanna Arquette et Rose McGowan, ont prévu de manifester tout à l'heure.
Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis. Une situation politique toujours plus chaotique au Venezuela. Juan Guaido a été réélu hier président du Parlement par les députés d'opposition. Un vote organisé dans un journal puisqu'il n'a pas pu accéder à l'hémicycle. Dans l'Assemblée, un candidat rival, Luis Parra, s'est proclamé président du Parlement. Il y a donc deux chefs pour un poste. Reportage à suivre dans le journal de 8 heures de France Culture. Ils ont remporté un Golden Globe, cette nuit à Los Angeles, récompense attribuée par l'Association de la presse étrangère d'Hollywood. Sam Mendes, qui rentre chez lui avec 2 trophées, meilleur film dramatique et meilleur réalisateur pour 1917, film de guerre. Quentin Tarantino, qui gagne le prix de la meilleure comédie ou film musical pour Once Upon a Time in Hollywood. Rien pour les Français, Céline Sciamma et Lajli. Ils venaient présenter Portrait de la jeune fille en feu et Les Misérables. Le Sud-Coréen Parasite est sacré meilleur film en langue étrangère. De la pluie arrive aujourd'hui par l'ouest de la France. Le ciel sera gris, du Roussillon au Massif central. Les températures maximales seront de 2 degrés à Strasbourg, 4 à Lille, 7 à Paris et Lyon, 9 à Bordeaux, 11 à Brest et 14 degrés à Marseille, Guillaume.
Merci Margot Delpierre.